correspondant Edouard Maï y était.
Estella Dixon, 92 ans, sort d'un sac en plastique, deux photos encadrées, sa petite fille avec Bill Clinton, et sur l'autre, c'est elle avec l'ancien président, toujours très populaire.
Radio G, 101.5 FM.
Venu d'ailleurs, la nouvelle émission sportive, mais pas que, de Radio G. Animée par Valentin Dedon pour l'association La Dalle Angevine. À retrouver un vendredi sur deux à 9h10 sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Une conversation intime avec un ou une invitée venue d'ailleurs et qui vit aujourd'hui sa passion pour le sport à Angers. Alors à très vite dans Venu d'ailleurs sur Radio G. Venu d'ailleurs, c'est un podcast pensé pour vous faire découvrir des personnalités, actrices et acteurs de la vie sportive angevine, et qui possèdent toutes et tous ce très beau point commun. Elles ou ils sont nés dans un pays qui n'est pas la France, dans un ailleurs qui déclenche une curiosité, comme une invitation au voyage, un voyage humain. Alors nous allons les accueillir et les questionner, sur leur terre natale, sur leur rencontre avec le sport là-bas, sur le chemin qui les a conduits jusqu'ici, à Angers, et sur le rôle qu'ils ou elles occupent aujourd'hui dans le paysage sportif local. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Venu d'ailleurs. Aujourd'hui avec nous au local de l'association La Dalle Angevine, on accueille Sophie Galina, nageuse et qui fait le bonheur du club d'Angers Natation Synchronisée. Bienvenue à toi Sophie et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation.
Sophie, première question rituelle de ce podcast, où es-tu née? Dans quel pays? Dans quelle ville?
Alors moi je suis née en Russie. La ville s'appelle Rostov-sur-le-Don. On a l'impression que ça peut être une ville française, mais absolument pas. En fait, le Don, c'est une rivière. Et du coup, la ville, elle est sur les côtés de cette rivière. C'est au sud de la Russie, assez près de Caucase.
D'accord, donc c'est à proximité avec une frontière, un autre pays?
Oui, c'est très proche avec la frontière de l'Ukraine.
D'accord. Donc,
à peu près à 100 km, on est déjà à l'Ukraine.
Et ce nom de ville là qui est un petit peu interpellant, tu l'as expliqué un petit peu, c'est le nom de la rivière, mais ça fait très français effectivement, il y a un lien quand même, il y a une proximité sur le nom de la rivière.
Non, pas d'accord. Du tout, c'est juste en le traduisant en fait du russe en français, ça fait comme les noms des villes françaises, mais il n'y a rien de particulier en lien avec cela.
Alors cet endroit-là, quels sont un petit peu tes premiers souvenirs là-bas? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette ville, son ambiance, ses odeurs?
Alors la ville, elle est, en fait par rapport à des villes françaises, elle est très grande je dirais. Il y a plus d'un million d'habitants. Et effectivement j'y ai passé mes 18 premières années. Donc je me souviens assez bien de la ville. J'aimais bien ça. Enfin c'est la ville qui est très... la vie est très intense, très intéressante. Il y a plein d'événements qui se passent, plein de choses qu'on peut voir, découvrir, etc. Donc j'aime bien ma vie natale.
Donc tu as 21 ans, tu dis que tu as passé 18 ans, donc c'est encore frais. Tu y es parti il n'y a pas si longtemps. Les 18 premières années là-bas, il y a eu beaucoup de sport, j'imagine, la rencontre avec le sport, avec ton sport. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, quel sport tu as fait d'abord? Est-ce que tu as tout de suite commencé la natation synchronisée?
Alors non, à mes 3 ans je crois, j'ai commencé par la danse. Et ensuite, du coup, j'ai continué jusqu'à 7 ans. Et après, on commence l'école à partir de 6 ans et demi ou 7 ans, en fait, en Russie. Et en commençant l'école, en fait, c'était compliqué pour mes parents d'amener moi et ma sœur, en fait, jusque là où il y avait la danse. Donc, en fait, on a cessé la danse et on a commencé la natation synchronisée, sachant qu'en fait, pourquoi natation synchronisée? Parce que mes parents, ils connaissaient un entraîneur qui avant, du coup, entraînait il faisait la natation. Et ensuite, entre le temps, elle s'est dit pourquoi pas natation synchronisée. Et du coup, il est parti pour entraîner la natation synchronisée. Et voilà, c'était comme ça qu'on a choisi la natation synchronisée.
Elle lui-même était en train de découvrir un petit peu l'entraînement de cette discipline-là.
Elle a fait, elle était sportive professionnelle aussi, mais elle a fait du plongeon. Donc, c'était pas forcément les mêmes disciplines, mais elle était très passionnée. Et puis, ça permettrait nous aussi de nous passionner, les enfants, à ce sport.
Donc tu t'es mis à la natation synchronisée avec ta sœur. Est-ce que cette discipline t'a plu tout de suite? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé, ce lien avec cette discipline qui, d'un point de vue extérieur, est très exigeante, quoi, en termes d'entraînement, de discipline?
Oui, on a commencé et puis on a tout de suite aimé avec ma sœur. Il y a aussi un autre point, c'est que, on avait plusieurs entraîneurs du coup dans le club et la fille d'une autre entraîneuse, en fait, elle était en équipe de Russie, enfin équipe nationale de natation synchronisée. Et du coup, comme elle était de notre ville natale, elle venait assez souvent nous partager son expérience, nous raconter des choses et puis nous montrer des éléments, des choses au niveau technique qui sont intéressantes pour nous. Et donc, ça passionnait encore plus le fait de voir la vraie championne.
Et cette championne, comment elle s'appelle?
Alors, elle s'appelle Vlada. Je crois qu'elle est encore en équipe nationale de Russie. Si je ne me trompe pas, elle est en train de composer son nouveau solo. Voilà.
Oui, donc c'est vraiment la personnalité qui vous faisait un petit peu rêver et puis qui a cultivé un petit peu l'envie de continuer ce sport.
Oui, tout à fait. Et puis avec l'âge, du coup, il y a les compétitions qui arrivent. Donc même si on ne réussit pas d'un coup, on continue. Et puis il y a des résultats qui arrivent et ça passionne encore plus comme n'importe quelle chose.
Et toi là-bas, donc en Russie, la natation synchronisée, jusqu'où tu es allé en termes de niveau? Est-ce que tu espérais faire une carrière un peu comme Vlada? Comment ça s'est passé, ton évolution dans cette discipline?
Alors moi, je ne me voyais jamais une vraie nageuse synchronisée professionnelle, je dirais. Donc je savais que ça va être effectivement ma passion, mon temps libre, mais que j'aurais en fait quelque chose à côté au niveau de mes études. Mais quand même, j'étais très très passionnée. J'aime bien ce sport. J'étais en équipe du coup, on va dire de région, j'essaie de comparer en fait en Russie et en France. Ouais, je pense que c'est à peu près l'équipe de région en fait. On était en compétition nationale, on était 4e ou 5e, ça dépendait des années, des disciplines. Voilà.
Ok, très bien. Donc là, on était un petit peu avec toi en Russie, dans ta ville natale où tu as commencé la natation synchronisée. Tu en parlais tout à l'heure, quand tu as eu 18 ans, tu es parti de cette ville, tu es arrivé en France, je crois, tu vas nous préciser. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un petit peu pourquoi il y a eu ce départ, ce déplacement.
Alors, c'était en 2017. Le centre en fait qui s'appelle Alliance Française, qui donne des cours aux étrangers du français, et là-dedans en fait il y a les enseignants qui sont les vrais français qui font un contrat avec l'Alliance Française et du coup qui vont dans des pays différents étrangers pour justement enseigner leur langue natale. Et en fait il y avait une femme qui est venue, qui était originaire de Brissac et qui est venue du coup à Rostov donner des cours. Et en fait, c'est notre famille qui l'a logée le temps qu'elle était à Rostov. Et du coup, en parallèle, du coup, elle me donnait des cours au logement. Enfin, nous, on donnait le logement, et du coup, elle me donnait des cours. Et en fait, c'est elle qui a parlé à ma maman que peut-être ça serait intéressant de faire un stage linguistique à Angers. Il y a le centre international en fait du français qui s'appelle CIDEF, qui est juste dans le bâtiment de Lucou, justement. Et elle en a parlé à ma maman, j'avais 15 ans. Ma maman n'a pas eu peur, elle m'a laissé partir. Du coup, je suis partie à Angers faire le stage pendant 3 mois.
Donc ça, c'était ta première expérience de départ, de venue à Angers. Tu es d'abord venu pendant 3 mois faire ce stage axé sur l'apprentissage de la langue. Donc
oui.
C'était vraiment sur la langue française.
Tout à fait. Et après, du coup, je suis... Quand je terminais du coup le lycée, je voulais partir en France faire mes études supérieures. Et je fais pareil, il y a un équivalent de Parcoursup, mais en Russie. Et j'ai fait des demandes pour plusieurs villes. Et du coup, j'étais acceptée à Angers.
Donc, tu as eu un espèce de coup de cœur, quoi. Tu as construit un petit peu ce projet de venir en France, d'abord via cette dame, après en venant 3 mois. Cette attraction s'est faite d'abord... par la langue, par l'apprentissage de la langue que tu as découvert grâce à cette dame chez toi en Russie?
Oui, par la langue, pour la France en général. Et puis pour Angers, c'est en fait, j'avais une famille d'accueil merveilleuse ici à Angers. Donc pareil, ils m'ont montré des endroits pas loin d'Angers.
On les est trois parti, mois que tu as passé chez
tout
eux.
Tout à fait,
ça,
on d'accord. est parti découvrir les châteaux, des monuments, des choses intéressantes. Et du coup, bah, Angers m'a passionnée. C'est vrai que c'est une ville très agréable pour vivre.
Ouais, donc tu as tout fait pour après l'équivalent du baccalauréat en Russie venir faire ton parcours d'études ici.
Oui, tout
d'accord.
à fait.
Alors qu'est-ce que tu racontes-nous un petit peu ce que tu fais comme études, vers quoi tu es parti depuis 2019.
Actuellement, du coup, je suis en chirurgie dentaire en quatrième année. Je suis passée par ce qu'on appelait à mon époque pluripass, mais du coup qui s'appelle maintenant pass la première année. Je l'ai fait à Angers et après j'étais admise en odontologie. Du coup, je suis partie sur Nantes puisqu'il n'y a pas de fac dentaire à Angers. Et du coup, je fais mes études actuellement à Nantes. Voilà.
Tu vis à Angers et tu fais tes études à Nantes.
Tout à fait. Pour l'instant, je fais des trajets en train.
Et ton pays, est-ce que tu y retournes? Est-ce que tu y es retourné? Est-ce qu'il te manque? Comment tu vis un petit peu ce déracinement?
Comme je suis à Angers avec ma famille, c'est vrai que c'est un peu différent par rapport aux personnes qui peuvent partir tout seul dans un pays étranger.
Oui, donc tes parents t'ont rejoint, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il y a aussi ma sœur et mon frère qui
d'accord.
sont, enfin mes deux
vous
frères
êtes
qui sont là.
Vous êtes regroupés ici,
oui.
D'accord.
Tout à fait. Donc effectivement, ça me manque le pays dans le sens où j'avais des amis aussi là-bas, des copains. J'ai peut-être envie de les voir également, mais effectivement, enfin pour l'instant, c'est compliqué de revenir. Mais je voudrais bien un jour y revenir pour voir tous ceux qui sont restés là-bas.
Tu dis que c'est compliqué d'y retourner, on connaît la situation particulière. Toi, tu étais déjà à Angers quand il y a eu le début de la guerre, et comment tu vis cette réalité-là, comment tu l'aperçois?
Alors, c'est vrai que c'est... Enfin, déjà, le fait que je ne suis pas là-bas, c'est, ça fait une distance quand même, mais effectivement, je ne le vis pas très bien, sachant qu'on est tout proche de la frontière, et de plus, dans notre région, en fait, il y avait tellement de mariages entre les Ukrainiens, entre les Russes et tout. Il y a la moitié, je pense, des gens qui sont moitié russes, moitié ukrainiens, moi d'ailleurs, parce que nous...
Oui, cette proximité des deux pays fait que voilà, la frontière était souple et les gens se rencontraient, vivaient presque ensemble.
Oui,
entre
tout
les
à
deux
fait, nous, on est tous moitié ukrainiens, moitié français, voilà, donc pas n'importe quoi, de moitié ukrainien, moitié russe, pardon.
Maintenant tu es un tiers ukrainien, oh,
ouais.
un tiers russe, un tiers française.
C'est ça.
Du coup, cette situation te fait souffrir. Tu as des nouvelles de là-bas. Tu vois que les choses ont changé, les liens ont changé. C'est une situation de guerre, donc j'imagine que la frontière est beaucoup plus fermée, cloisonnée. Les échanges se font moins. Il y a des inimitiés qui en ressortent dans ce secteur-là. Comment
oui,
ça se passe?
C'est ça. Après, moi, j'avais pas forcément de famille ou des amis en Ukraine en tant que tel. Enfin, on était tous plutôt en Russie, mais effectivement, moi je comprends pas trop. En fait, on considérait que c'est deux nations et on était comme des frères et des sœurs. Donc pour moi, c'est assez compliqué à vivre.
Oui, il y a un gros décalage entre cette décision et puis cette réalité-là de proximité, de fraternité que vous vivez. Et toi, ici en France, le fait d'être russe, on t'en parle souvent. Est-ce que c'est dur d'évoquer ça, ou il y a une compréhension, il y a une curiosité
Alors non, moi j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Ma fac, il y a des gens qui connaissent que je suis russe, mais ça leur fait, oui, effectivement, il y a une petite curiosité par rapport à la langue, par exemple, parce que c'est pas du tout la même chose, ou autre pour raconter mon parcours et tout, mais il n'y a rien de méchant, c'est justement, tout est dans la bienveillance.
Et donc on reparle un petit peu de la langue. C'est vrai que c'est assez impressionnant d'entendre ton français qui est presque parfait, on va dire. Le presque est même de trop. Donc tu nous as dit que tu avais commencé à l'apprendre à l'âge de 15 ans en Russie avec cette dame. Tu t'es senti très à l'aise tout de suite dans cette langue pour apprendre cet alphabet, ou ça a été dans la difficulté? Raconte-nous un petit peu cet apprentissage de la langue et ton goût pour elle.
Moi je pense que j'avais... des facilités, je dirais en langue, parce que j'ai déjà, en fait, j'étais dans une école qui avait comme langue étrangère allemand et anglais. Du coup, j'ai commencé par ça. Et du coup, après, j'ai rajouté français, mais c'était pas dans le cadre de l'école, c'était à part à l'Alliance française. Et pour moi, je dirais pas qu'il y avait des difficultés, mais comme je connaissais déjà en fait l'alphabet et tout, c'était plus simple. Mais les langues ne sont pas du tout les mêmes, effectivement. Donc, mais moi, j'aimais bien la culture française, et puis la langue en elle-même, je l'aime beaucoup.
Et depuis que tu es à Angers, tu la découvres aussi d'une autre manière, au-delà de tes études, de la natation synchronisée dont on va reparler tout à l'heure, tu te passionnes aussi pour ça. Qu'est-ce que tu fais un petit peu pour nourrir cette passion?
Oui, effectivement, quand on apprend la langue à l'étranger, en fait, on l'apprend très bien par des livres, par des règles de grammaire et tout. Mais dans la vraie vie, en fait, il n'y a pas toujours la même chose. Il y a des expressions qu'on ne connaît pas du tout parce que c'est quelque chose, en fait, qui s'emploie qu'à l'oral. Il n'y a aucun livre qui va dire que c'est comme ça qu'on le dit. Et effectivement, c'est très passionnant, en fait, de sentir la différence entre la langue en fait qu'on apprend et la vraie langue en fait vivante dans le pays. Et moi, ça me fait toujours j'ai beaucoup d'intérêt pour découvrir les phrases, les mots, les expressions que les vrais Français en fait utilisent, mais dont on m'a pas du tout parlé quand j'apprenais la langue.
Oui, ça c'est le lien social, la réalité de la vie ici avec des gens qui te fait entendre un petit peu la vérité de la langue aussi. Oui. Et ses inventions un petit peu d'expression. C'est quoi par exemple les expressions que tu as pu découvrir peut-être dans le milieu du sport avec tes coéquipiers?
Oui, dans le milieu du sport, c'est tout ce que j'ai découvert parce qu'en fait tous les termes, il y a quelque chose qui ressemble, mais effectivement, ils sont pas du tout les mêmes qu'en russe. Donc,
oui, il y a toujours un vocabulaire aussi très propre à une pratique, à une discipline, au sport.
Oui, il y a des phrases qui se traduisent directement, comme en russe, on traduit le verbe et puis le nom, par exemple, mais des fois, les noms, par exemple, des choses techniques, c'est pas du tout la même chose qu'en russe, donc fallait que j'apprenne, mais après, c'est assez facile en sport parce qu'on peut montrer, on peut voir les autres faire et on comprend beaucoup mieux. Et pareil à la fac, j'apprends aussi le français que je connaissais pas avant avec les termes spécifiques et tout.
Oui, il y a aussi tout un vocabulaire par rapport au milieu dentaire qui est particulier. Et donc tu parles aujourd'hui allemand, anglais, russe, français, ou l'anglais et l'allemand tu as un petit peu arrêté ou tu l'entretiens aussi?
Alors russe et français oui, anglais je dirais que oui, après j'ai pas forcément d'opportunités pour le pratiquer, mais effectivement tout ce qui est scientifique au niveau des articles, effectivement c'est tout en anglais, donc c'est plutôt je dirais anglais pour lire. Enfin, au niveau de compréhension, après au niveau expression orale, faut voir. Et allemand par contre, pas du tout. Enfin, j'ai des bases qui sont restées depuis que je l'apprenais, mais je l'ai abandonné à peu près vers 15 ans. Donc, je parle pas allemand.
Et au niveau de l'écriture aussi, t'es aussi à l'aise en français à l'oral que à l'écrit?
En français, oui.
D'accord.
Il n'y a pas de souci sur ça.
Pour revenir un petit peu à la réalité aussi à Angers de la natation synchronisée, ton lien au club, comment ça s'est fait un petit peu là, ton arrivée au club tout de suite dès que tu es arrivé sur Angers il y a quelques années, tu as cherché un club de natation synchronisée ou comment ça s'est passé?
Alors je vais revenir juste en 2017 où du coup j'étais en stage pendant les 3 mois. En fait j'étais en stage octobre, novembre, décembre, et quand je revenais du coup à Rostov, il y avait les compétitions juste après que je revienne, donc en fait il fallait que je m'entraîne les 3 mois parce que sans pratique c'est pas facile à faire les programmes. Et du coup je me suis dit faut que je trouve un club pour pouvoir m'entraîner. Je suis allée du coup à la piscine Jean Moi, j'ai demandé à l'accueil est-ce qu'il y a le club de natation synchronisée ici, ils m'ont dit oui, il y a l'entraîneur, et en fait il y avait l'entraîneur justement quand je suis venue. Je suis allée voir du coup notre coach et elle a dit oui il n'y a pas de souci, tu peux venir. Elle m'a donné les horaires.
C'est Rachel,
et tout.
Ouais. Rachel Le Bozek, donc, qui t'a accueilli et qui
tout à fait
permis de
en 2017 elle m'a dit que je peux m'entraîner, du coup je suis venue pendant ces 3 mois pour pouvoir me tenir en forme et revenir en Russie en forme pour les compétitions.
Et du coup, quand tu es revenu de manière plus définitive et longue, tu t'es rapproché aussi de Rachel et du club pour venir t'entraîner.
Tout à fait, oui. C'était pas la première année quand j'étais en France, parce qu'avec la première année de médecine, c'était compliqué à faire quoi que ce soit à part. Mais du coup, à partir de la troisième année, quand tout s'est stabilisé et tout, je suis revenu. Effectivement, c'est toujours Rachel qui entraîne.
Et alors toi, la natation synchronisée, c'est quoi ton format phare? Tu es seul, tu es en binôme, tu es en groupe, en équipe, comment tu la pratiques?
Alors, pendant toute ma vie, j'ai fait plusieurs choses. Quand j'étais en Russie, du coup, on avait l'équipe, j'avais le duo en fait avec notre fille, et je faisais aussi du solo. Enfin, ça dépendait des années, mais en gros, j'ai fait un peu de tout. Là, actuellement, en Angers, je suis en train de justement me préparer aux compétitions en solo. Parce que malheureusement, il n'y a pas de. Enfin, cette année et l'année dernière, il n'y avait pas en fait assez de personnes pour faire l'équipe de Monash, parce qu'il y a plusieurs catégories d'âge. Et moi, en fait, je suis en catégorie senior qui est plus de 18 ans. Et il n'y avait pas assez de personnes.
Il y a beaucoup de jeunes pratiquantes, il y a des grosses équipes, mais à partir de 18-20 ans, il y a un petit peu moins de monde pour faire.
Oui, effectivement, comme tout le monde, quand on commence les études supérieures, les gens partent dans d'autres villes et tout, et ça devient plus compliqué.
Donc là, tu prépares un solo pour une compétition qui va arriver là, d'ici la fin de saison, c'est ça, au mois de juin?
D'ici la fin de cette semaine, oui.
Donc là, on est en plein dedans. Raconte-nous un petit peu comment ça va se faire et où et comment.
Tout à fait. Alors, ça sera mes premiers compètes en France. C'est le 3 et 4 juin à Chartres. C'est les compétitions interrégionaux du coup qui donnent accès aux championnats de France qui seront au mois de juillet.
D'accord, donc, et là ton objectif c'est de te qualifier pour ces championnats
oui,
de France?
Oui, tout à fait, je vais faire mon solo et puis mon objectif c'est de me qualifier pour les championnats de France.
Alors, raconte-toi un peu comment, c'est quoi un solo, ça dure combien de temps, comment on se prépare, il y a un choix de musique, on répète une chorégraphie, c'est ça, et après on apprend à la faire sous l'eau, explique-nous un petit peu le cheminement.
Alors le cheminement il peut être différent d'ailleurs, mais en gros c'est un des 5 programmes qu'on a en natation synchronisée, donc le solo, ça se nage seul. La durée, elle est à peu près de 2 minutes 15, 2 minutes 30 en fonction des âges. Il y a effectivement le choix de musique et ensuite il y a toute la partie de choix de chorégraphie de design, on va dire, de solo en fonction des difficultés qu'on veut avoir, en fonction de l'impression artistique qu'on veut avoir. Et d'habitude, je dirais qu'on choisit d'abord la musique et ensuite on fait les mouvements par rapport à la musique, parce qu'effectivement, il y a des musiques où on peut très bien caler des choses qui iront très très bien avec cette musique-là, mais pas avec l'autre. Mais rien n'empêche, en fait, de commencer, d'avoir une idée en tête de ce qu'on veut faire avant qu'on choisisse définitivement la musique. Et après, une fois la musique choisie, du coup, on commence à faire la chorégraphie en elle-même. Dès que c'est fait, on fait directement dans l'eau. En fait, on peut essayer quelque chose à sec, mais il faut l'essayer dans l'eau pour savoir si c'est faisable dans l'eau ou pas. Parce que tout ce qui est faisable à sec, il n'est pas tout à fait faisable dans l'eau. Et ensuite, une fois, tout est monté. Donc, on a monté les 2 minutes 15 de mouvement dans l'eau. On commence à le faire par partie, ensuite par moitié, par exemple, par longueur, ce qu'on appelle. Et ensuite, du coup, en faisant en entier à la fin.
Ok, très bien. Il y a une réputation un petit peu dans ce sport de douleur, quoi, d'extrême douleur, parce que sous l'eau, on manque d'oxygène, les muscles ne sont pas régénérés, oxygénés, et tous les mouvements font mal. Tu la ressens, cette douleur, elle fait partie de la discipline, c'est intense, c'est fort, ou on organise les choses pour moins la ressentir, que ce soit moins long, comment on gère cette douleur?
Alors moi, c'est vrai que j'ai pas entendu la notion de douleur en tant que telle. Effectivement, c'est, je dirais, très compliqué en fait de faire, parce qu'on fait à la fois apnée en fait et à la fois les mouvements, en dehors de l'eau, sachant qu'on est tête en bas. Donc ça complique les choses. Mais pour moi, il n'y a pas de notion de douleur. C'est plutôt la difficulté en fait. Il n'y a pas de douleur en tant que telle, mais c'est vrai que c'est dur en fait de tenir l'apnée et faire en même temps quelque chose en dehors de l'eau. Mais après, on a des parties de figure. Donc c'est ce qu'on fait avec les jambes en dehors de l'eau. Et ensuite, il y a toute la partie des bras en fait, où on peut respirer en faisant des mouvements de bras pour arriver à la figure d'après et du coup refaire l'apnée pour montrer de belles choses.
Donc là, d'ici la compétition, il reste peu de temps. Tu t'entraînes beaucoup en ce moment. C'est une période du coup très très intense pour toi.
Oui, tout à fait. Je vais justement ce soir, je vais aussi avoir un entraînement. Demain, on aura un entraînement et vendredi aussi. Du coup, samedi matin, on part à Chartres pour commencer les compétitions.
Bonne chance à toi, Sophie, et merci beaucoup pour d'être venue dans cette émission.
Merci, merci pour l'invitation.
Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite dans Venu d'ailleurs pour une nouvelle rencontre.
Un podcast réalisé par Lucas Lefranc et Valentin Dedon pour l'association La Dalle Angevine.
Radio G 101.5 FM.
si c'était le moment. Comme si l'après pointait l'avant. Comme si qui sera était. Et que la mécanique s'essoufflait.